je déroule le micro, en principe.
Je ne sais pas s'il fonctionne. Oui, il fonctionne, ce qui est une très bonne chose. Alors, je demande tout de suite à Jean-Luc de venir devant, parce que je vais lui demander de lire le texte tout à l'heure. Alors, en effet, je dois dire, le Seigneur m'a béni au cours de la préparation de ce message. Ça fait 4 mois environ que nous avions décidé, et de cette date, et du thème que je prendrai. Alors, un tout petit problème qui me concerne, c'est que ça fait plus de 4 mois que c'est décidé. Puis cette semaine, voilà, j'ai des problèmes de voix. Alors, je prends des pastilles et des pastilles. Je me suis drogué pour pas tousser. J'espère que j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Le Seigneur est bon s'il me donne de tenir le coup. Alors, j'ai quand même pris de l'eau avec moi, ce qui me sera bien utile peut-être à un moment donné. Alors voilà, nous allons faire un cheminement du mont Sinaï. J'ai changé un tout petit peu le titre, ne plus parler de la chambre haute uniquement, mais au mont Sion, le mont Sion étant à Jérusalem. Voilà, alors notre situation, donc nous sommes dans le livre de l'Exode. Dieu a appelé le peuple en dehors, il y a eu la Pâque, il y a eu tout ce qui s'est passé là autour, le début du cheminement dans le désert, l'arrivée au pied du mont Sinaï, et puis voilà que Dieu s'est révélé au peuple. Il y a eu les coups de tonnerre, tout ce qui était là autour, quelque chose de très impressionnant, et le don des 10 paroles, quelque chose qui a été vu, sauf erreur, il y a 15 jours ou 3 semaines. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans la conclusion de ce qui a été donné, c'est-à-dire la signature du pacte, en quelque sorte. Lecture dans Exode 24, les versets 1 à 11. Nous lirons pas tout le texte, vous pouvez le lire pour vous à la maison. Merci Jean-Luc, qui est un lecteur, un bon lecteur. Très bon. Voilà.
Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondait d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion, ou sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines, et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils lui dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance » que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent.
Merci Jean-Luc de prêter ce mot. Voilà. Un texte qui nous impressionne certainement. Si nous avions été au Sinaï, nous aurions été, je pense, très très impressionnés par cette circonstance. Une question se pose tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une alliance ? Alors, une alliance, selon le dictionnaire, c'est un pacte, une convention qui existe entre deux ou plusieurs personnes. Ça peut être écrit, ça peut être tacite. Mais qui dit pacte dit aussi obligation réciproque. Obligation réciproque, les deux côtés. En général, c'est pour le bien des deux parties. Et c'est conclu entre souvent un souverain, donc quelqu'un qui a une puissance, et un vassal, quelqu'un qui, au fond, devra entrer dans cette alliance, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Mais le but est quand même le bien commun. Et qu'est-ce qui en est de la définition biblique? Le mot hébreu, c'est brit. Je le signale parce que nous le reverrons tout à l'heure. On ne connaît pas l'origine de ce mot, mais le sens général est le même qu'en français. C'est un accord entre deux parties. En général, il y a un côté fort et puis un côté un peu plus faible, l'autre partie. Et si on met un A majuscule, c'est Dieu qui entre en relation avec les hommes. Alors, il faut faire une mise en garde. Et c'est un texte que j'ai trouvé du cardinal Ratzinger, qui est venu Benoît XVI. Peut-être cela vous intéresse ou vous surprend. Il écrit ceci. « Ce que nous appelons alliance avec un A majuscule, l'alliance avec Dieu, ne doit jamais être entendu dans la Bible comme un rapport symétrique de deux parties, de deux partenaires qui entrent dans un rapport contractuel l'un envers l'autre et s'imposent mutuellement des obligations et des sanctions. Cette idée de partenariat de même niveau est inconciliable avec l'image biblique de Dieu. Pourquoi ? Si Dieu entre en alliance, s'il y a des sanctions, on ne peut imaginer que Dieu puisse être repris, que Dieu, on doive le sanctionner. Ce n'est pas possible. Ce qui est le cas dans une alliance normale. Si on ne faisait pas, il y a des sanctions. Avec Dieu, c'est totalement impossible. Donc, on ne peut pas envisager l'alliance, qu'elle soit du Sinaï ou d'autres alliances, comme un partenariat dans lequel Dieu pourrait être trouvé coupable. Alors, les alliances dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs. Et je vais vous montrer très rapidement, on va revoir ce schéma que Nicolas nous avait présenté une fois. Je pense qu'il l'a présenté à l'Église, en tout cas dans les ateliers. On ne va pas s'y attendre, mais cela nous montre qu'il y a plusieurs alliances dans l'Ancien Testament et pas uniquement l'alliance du Sinaï. Alors, si on reprend le schéma, tout à gauche, j'espère arriver, voyons, t'es où ? Voilà, t'es ici, la création, donc, Adam, etc., qui ont en relation avec Dieu, mais il y a la chute. Ensuite, la deuxième étape, l'alliance première qui revient après, c'est l'alliance avec Noé, après le déluge. Une alliance qui s'appliquera à tous les êtres humains. Et on voit la flèche qui se poursuit ici. Cela n'est pas suffisant. Dieu a fait une nouvelle alliance. Alors, c'était l'alliance patriarcale, c'est-à-dire avec Abraham et ses successeurs. Et dans cette alliance, il y a quelque chose de nouveau, où Dieu promet, fait des promesses. Vous vous rappelez peut-être, ta descendance sera comme le sable qui est au bord de la mer, ou comme les étoiles qui sont dans les cieux. Arrivez-vous à compter le nombre de grains de sable au bord de la mer, ou le nombre d'étoiles dans les cieux ? Impossible. Mais la promesse est là à Abraham. Ensuite, nous avons l'alliance du Sinaï, celle qui nous occupe ces jours. Bien ensuite, l'alliance avec David. Et là, les choses se spécifient un peu. David, c'est la promesse de quelqu'un qui règnera et dont le royaume ne s'éteindra pas. On distingue la notion du Messie qui vient là-dedans. Ensuite, nous sommes dans la nouvelle alliance, celle que Jésus a inaugurée. On reviendra tout à l'heure dessus. Et puis ensuite, une nouvelle alliance consommée. Ce qui caractérise ces alliances, ce sont des promesses de Dieu qui s'adressent à des personnes éventuellement ou à des peuples. Mais il ne faut pas considérer ces alliances comme des choses qui sont un peu comme ça, on en prend une, on met une autre. C'est un peu comme les poupées russes. Vous en avez une, vous en avez une autre qui se met par-dessus, mais l'autre elle est par-dessous. Et vous avez, au fond, chaque alliance se bâtit sur celle qui est précédente. C'est comme ça qu'il faut comprendre les alliances. Et la nouvelle alliance, on en parlera un peu tout à l'heure, elle se construit sur toutes les alliances passées. Alors venons maintenant sur le texte de jour, l'alliance du Sinaï. Alors, quel est le but de cette alliance ? Eh bien, Dieu a délivré son peuple, il a pris l'initiative, pourquoi ? Il nous a dit dans le texte qu'il en fait son trésor particulier parmi toutes les nations. Toutes les nations sont là et un peuple est choisi. On pourrait se dire, mais il y a du favoritisme de la part de Dieu, n'est-ce pas? Mais quel est l'objectif? Et cela, nous l'avions vu lorsque Nicolas nous avait parlé de ce texte dans Exode 19. « Je vais faire d'Israël de vous un peuple de prêtres parmi les nations. » Un peuple de prêtres. Toutes les nations m'appartiennent, mais vous serez en particulier un peuple de prêtres entre les nations. Le prêtre, je rappelle simplement, est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, voire entre les hommes et Dieu. Et Israël, en tant que communauté, est appelé à être ce peuple de prêtres, donc au sein des nations. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre, dit Dieu, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Et je renvoie ici au passage que Priscille avait médité dans 1 Pierre 2, il y a une année, davantage d'une année à ce sujet. Nous sommes aussi, en tant que chrétiens, nous faisons partie de ces prêtres-là. Alors, il y a 4 éléments dans le texte qui sont à la base de la conclusion, j'ai noté, de la signature du contrat, en quelque sorte. Le premier, eh bien, c'est la charte. De quoi est-ce qu'on parle? Il s'agit de savoir, finalement, qu'est-ce que Dieu veut. Alors, c'était les 10 paroles que nous avons vues au chapitre 20. Et puis, il y en a plusieurs, en fait. On recense, si je me rappelle, 365 commandements positifs, 200 et quelques qui sont négatifs, etc. C'est énorme, si on veut, le nombre des dispositions qui sont là, sans oublier les dispositions noachides, par exemple, celles qui prévalaient lorsque Dieu a fait alliance avec Noé. Elles sont incluses là-dedans. Nous lisons, Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Et Moïse prit le livre. Attention, il ne s'agissait pas d'un livre comme ça à l'époque. On ne connaissait pas les livres liés. C'était peut-être un rouleau, je ne sais pas, peut-être des tables écrites. En tout cas, n'imaginons pas qu'ils avaient une Bible comme on en a aujourd'hui. Il prit le livre et le lut en présence du peuple. Ainsi, le peuple savait de quoi on parlait. Et ils ont accepté. Oui, tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. Et dans le texte, on a lu 2 fois cela. Donc le peuple s'engage vraiment. Et déjà auparavant, il avait dit, oui, mais tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Alors, c'est magnifique, parce qu'ils avaient dit non, on n'en veut pas, et bien tout était coupé. Alors oui, nous le ferons et nous obéirons. C'est beau cet enthousiasme qu'il y a là-dedans. Ça nous caractérise peut-être. Lorsque Dieu nous appelle ou à quelque chose, on est plein d'enthousiasme. Puis le temps, peut-être que ça sera plus aussi magnifique que ce qu'on imagine. Et en l'occurrence, on sait très bien ce qui s'est passé. Il y a un troisième élément, et là j'ai appris quelque chose de très important. Je vais vous le dire tout à l'heure. Le rituel du sang. Vous avez lu, on a offert des sacrifices. Et on a pris le sang dans les bassins, on va revenir tout à l'heure. Cette idée-là indique un peu quelle serait la sanction en cas de transgression de la loi. Il y a quelque chose qui est très important là derrière, que le peuple doit comprendre. Entrer en relation avec Dieu, oui, mais quelle pourrait être la sanction? Et là, certainement qu'il y avait un avertissement, on ne joue pas avec Dieu. Alors le sang, qu'est-ce que c'est? Le sang, c'est la vie. En fait, c'est une vie sacrifiée. La vie de quelqu'un qui s'est donné pour quelqu'un d'autre. Les Israélites l'avaient déjà vécu. À la Pâque, il a fallu immoler cet agneau. Et cet agneau, dont le sang a coulé, a protégé une partie du peuple, c'est-à-dire les premiers-nés en Égypte. Les quelques Égyptiens qui ont fait la même chose ont été épargnés, et autrement, ça a été la mort qui a régné. Et voilà qu'ici, à nouveau, on doit offrir des sacrifices. Pour nous, c'est un peu très théorique tout ça. On imagine même quelque chose d'assez beau, il offre son sacrifice, on voit tout de suite l'image de Jésus. Mais penchons-nous un tout petit peu vers ces gens. On prend un animal, on l'égorge, ça devait être assez terrible, l'animal se débattait sans doute, ensuite le sang coule, le sang gicle, etc. C'était des scènes, en fait, qui étaient terribles. C'était de la boucherie, mais pas comme dans nos boucheries actuelles. Il y avait quelque chose qui devait prendre les gens aux tripes, tout ce sang qui coule d'un côté. Le texte nous dit que la jeunesse a été impliquée. Et ce sont des jeunes gens, nous dit le texte, qui ont offert ces sacrifices. Voilà quelque chose qui nous surprend. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui n'étaient pas encore institués en tant que tels. Ce ne sont pas les anciens. C'est la jeunesse qui a été impliquée. Alors d'une part, c'est intéressant de voir dans l'Ancien Testament, dans une cérémonie si importante, que la jeunesse est impliquée aussi. N'est-ce pas? Magnifique, la jeunesse qui s'implique dans un service pour Dieu. On peut se réjouir de tous les jeunes ici qui s'impliquent dans un service pour Dieu. Et peut-être il y en aura encore plus qu'aujourd'hui. Il y en avait plusieurs ce matin qui ont chanté. Il y a un élément à mentionner par rapport à cela, et quelque chose de très beau, que j'ai lu dans un commentaire rabbinique. Et alors ils disent, tous ces jeunes qui s'étaient, c'étaient les rescapés de la Shoah d'Égypte. Ces rescapés qui n'ont pas été, enfin, dans lesquels le sang, qui ont été protégés par le sang lorsque l'agneau, lorsque l'ange, ou je ne sais pas, l'ange instructeur a passé. Ces jeunes-là, c'est ce qu'ils disent. Ces jeunes-là, ce sont ces jeunes-là qui ont pu offrir le sacrifice à ce moment-là. Le texte ne dit pas explicitement, mais le fait que ce soit mentionné doit nous dire certainement qu'il s'est passé là quelque chose de très important pour la jeunesse. Et je pense qu'ils devaient avoir raison de leur commentaire. Ces jeunes rescapés, c'est ceux qui ont le privilège d'offrir ce sacrifice à ce moment-là. Alors sur ces sacrifices, on voit qu'il y avait deux sortes. Il y avait les sacrifices qu'on appelle l'Holocauste, donc où toute la bête était brûlée dans son entier. À ce niveau-là, rappelons-nous que qualifier la Shoah d'Holocauste est une aberration. Parce que lorsque les Juifs sont morts, ce n'était pas un sacrifice qui plaisait à Dieu. On a fait un raccourci de gens qui ne connaissent peut-être pas trop la Bible. On prend des textes, on les met ensemble. Mais l'Holocauste juif, ce n'est pas, c'est une destruction, c'est une Shoah. Et ce n'est pas un sacrifice qui a plu à Dieu. Et puis il y avait les sacrifices de paix. Ça, c'est quelque chose d'un peu différent. Mais tout ce sang qui a coulé, il devait y en avoir en abondance, on l'a recueilli dans deux bassines. Pour en faire quoi? L'une des bassines a été utilisée pour asperger simplement l'autel sur lequel les sacrifices ont été faits. On dirait qu'il y avait peut-être du sang déjà, mais pas seulement. Ce fait-là montre que dans le rapport avec Dieu, même ce qui est saint, même l'autel qui est là, il a besoin d'être purifié. On ne s'approche pas de Dieu comme ça, notre bonne volonté ne suffit pas. Même tout ce qu'on peut avoir fait, ce n'est pas suffisant. Il était nécessaire que l'autel soit purifié. Et dans l'autre partie, le responsable, c'était Moïse sans doute, a pris le sang, il l'a jeté sur le peuple comme ça. Le peuple aussi avait besoin d'être purifié par ce sang. Quand même avant, ils avaient dû se préparer. Tout ceci nous montre, et ça c'est très important pour nous aussi, qu'on ne se présente pas aujourd'hui encore, même si nous connaissons Jésus, heureusement qu'il est là, on ne se présente pas à Dieu simplement comme ça, dans notre bonne conscience. Nous avons besoin de cet intermédiaire qui est Jésus pour nous aujourd'hui, si l'on veut se présenter devant Dieu. Alors, pourquoi tout ce sang? Est-ce que Dieu est un Dieu sanguinaire? Certainement pas, il y avait peut-être une certaine forme à l'époque. On voit du reste qu'après l'exil, ou dans l'exil, après l'exil, on n'a plus offert de sacrifices directement. Parce que les sacrifices, en fait, s'offraient à Jérusalem dans le temple. La synagogue n'était pas un lieu de sacrifice. Et aujourd'hui non plus. Nous lisons pourtant dans Hébreux, au chapitre 9, au verset 22, « Selon la loi, C'est avec du sang que, d'après la loi, on purifie presque tout. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quelque chose qui est excessivement important. Comme je l'ai dit, on ne s'approche pas de Dieu comme ça. Mais il y a une deuxième explication que j'ai découverte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau, que je dirais, que je voulais partager avec vous. La première notion, on la connaît depuis qu'on est enfant, au moins si on vient sur les sièges ici, culte de l'enfance, on le connaît. Cette deuxième explication était pour moi quelque chose de complètement nouveau. Les liens du sang. Qu'est-ce que c'est que les liens du sang ? Lorsque nous étions à l'école, vous étiez à l'école, vous avez peut-être lu des romans tels que Colombo, c'était Prosper Mérimée, cette histoire qui se passe, je ne me rappelle plus l'histoire, mais je sais qu'il restait quelque chose, ça se passait en Corse, et puis la vendetta qui était là, hein, la vengeance du sang. Il n'y a pas de pardon, et on entre dans des cycles qui sont irrémédiables, parce que l'un tue l'autre, qui n'est pas de ça, pour une raison X, puis ensuite on se venge, etc. Et cela, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. C'était Roméo et Juliette, le Cid, Rodrigue a tout du cœur, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui sort là derrière? C'est la communauté du sang, en fait. Pourquoi? Ce sang qui est là, à quelque part, lie les gens d'une façon très forte. On fait partie, on est lié par quelque chose qui nous dépasse peut-être, mais il y a des liens du sang qui se créent. Et c'est vrai aussi pour les rachetés de Dieu. Nous faisons partie d'une communauté qui est basé sur le sang, le sacrifice, la vie donnée de Jésus. Et ce fait-là crée un lien entre Dieu et nous, bien sûr, mais entre nous aussi, frères et sœurs. Si nous faisons partie de la même famille, si le sang nous lie ensemble, nous avons des obligations les uns envers les autres, mais nous avons aussi des privilèges les uns envers les autres. La semaine dernière, lors du moment de louange, Jean avait choisi ce chant « Comment réaliser la communion ?» Et il exprimait là-dedans, en effet, nous avons communion, mais ce n'est pas une communion théorique. Très concrètement, ce sang est là pour nous rappeler que nous faisons partie de la même famille. Il y a quelque chose de très fort qui nous lie les uns aux autres. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons cette notion déjà, la notion du Goël, le vengeur de sang. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était exactement cette notion-là. C'était la notion que si quelqu'un fait un crime par rapport à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est quelqu'un qui doit aller le venger. Et les livres du Lévitique et des Nombres, tout particulièrement, vont réguler cela. Cette notion existait, mais elle va être régulée. Tout d'abord, il y a des protections qui viennent. Et puis ensuite, la notion a évolué. Et le vengeur de sang s'est transformé en celui qui prend ma cause en main. Qui ne me laisse pas tomber, celui qui prend ma cause en main. Et ça se transforme finalement dans le Rédempteur, celui qui rachète. On trouve deux exemples de cela dans les livres de Ruth, n'est-ce pas, où Boaz va racheter Ruth par rapport à un parent pour lui donner un avenir. Boaz prend la cause de Ruth en main. Et le livre de Job, chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur, en hébreu, mon Goël, celui qui prend ma cause en main, est vivant, et que le dernier y sera sur la terre, et de mes yeux je verrai Dieu. » Job 19, 25. Il survient dans ce texte un élément surprenant. Voir Dieu. On peut remarquer que la conclusion de cette alliance ne se fait pas avec des nuages. Mais il y a deux partenaires qui sont là. Il y a les hommes et puis il y a Dieu de l'autre côté. Dieu se manifeste, on pourrait presque dire en chair et en os, pas tout à fait. Parce qu'il était question d'une vision qui était là, Moïse, d'une vision d'une partie de Dieu. Moïse montant avec Nadab et Abihu, donc les deux fils d'Aaron, et 70 anciens d'Israël, virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu ne porta pas la main contre eux, ils virent Dieu. Il n'y a pas beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui nous disent que des êtres humains ont vu Dieu. Parce que nous savons ailleurs, il est dit qu'on ne peut pas voir Dieu comme ça. Voir Dieu, c'est presque synonyme de mourir. Même dans le Nouveau Testament, lorsque dans l'Apocalypse, la vision de Jean, il voit Jésus glorifié, etc., il tombe à ses pieds comme mort. Pourtant, il ne meurt pas. Et puis, l'ange ou celui qui est là vient poser sa main sur lui et il ressuscite en quelque sorte. Mais là, spécifiquement, le texte nous dit, Dieu ne porta pas la main contre eux, ils virent Dieu. On peut imaginer ce moment extraordinaire qui a dû être dans la vie de ces gens. Voir Dieu. Enfin, c'était la demande de ces gens aux disciples, mais montre-nous qu'on nous voit le Père, etc. Puis Jésus va dire, moi je suis dans le Père, donc c'est en lui qu'on voit Dieu. Mais là, ils ne sont pas morts et ils ont vu Dieu. Alors on peut se dire, après tous ces événements, ces gens devaient être motivés, hyper motivés, et il ne devait plus y avoir de problème. La suite montre que les choses ont changé si rapidement. Et finalement, il y a un repas en commun. Chose étonnante, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans quelque chose de très concret. Un repas, ces hommes vont partager un repas devant Dieu. Alors, il n'est pas dit que Dieu a goûté à la nourriture. Est-ce qu'elle y était? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ils prennent un repas devant Dieu. Et ça, c'était une coutume qui existait à l'époque lorsque les gens concluaient un sacrifice, faisaient une alliance. Ils mangeaient quelque chose ensemble qui était un tout petit peu le moment, le banquet dans lequel sans doute on se réjouissait de ce qui s'était passé et c'était peut-être une manière de festoyer l'événement. J'en viens sur une première conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette cérémonie? Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans cela? Alors, de plusieurs éléments, peut-être vous avez pu en discerner des choses qu'on connaît aussi dans le Nouveau Testament, le repas ensemble, voir Dieu en Jésus, le sang qui est là, enfin, tous ces éléments, à quelque part, sont déjà implicites dans quelque chose. Pourtant, il me semble que dans toutes ces choses-là, il y a deux manques. Le premier, c'est que c'était un rituel pour Israël seulement. Les autres étaient totalement exclus. Si ça s'était passé aujourd'hui, dans le Sinaï, aujourd'hui, nous serions totalement en dehors de cela, dans les mêmes conditions. Paul écrivait aux Éphésiens, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, et nous sommes tous des païens dans la chair ici, je pense, à une ou deux exceptions près peut-être, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire le peuple juif, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers, aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, malgré tous les faux dieux que vous pouviez avoir. Telle était la situation de ces gens. Et si Jésus n'était pas venu, tels serions-nous aujourd'hui. Nous serions étrangers, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Voilà la situation qui était alors. Et la deuxième partie, Dieu ne change pas, mais il ne va pas de même d'Israël, et nous savons ce qui s'est passé. Et c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament qui se déroule. Ça va être l'institution des sacrifices, ça va être l'érection du tabernacle, ça va être plus tard le temple, tout cela. Tout cela parce qu'il y a des problèmes. C'est l'alliance qui est rompue. Et là, c'est un torrent de souffrance et de larmes qui va couler parce que cette alliance, elle était rompue. Et c'est l'exil, et c'est la disparition tout d'abord de 10 tribus, les 10 tribus du Nord, et ensuite c'était l'exil pour ceux du Sud. Et la promesse de Dieu, où était-elle? Alors, Alors, si je m'arrêtais ici aujourd'hui, ce serait le texte du jour. Mais vous sentiriez certainement un grand vide en vous. Vous diriez, mais alors pourquoi avoir traité cela? On sent qu'il y a un manque. Et ce manque, eh bien, plusieurs personnes y ont réfléchi. Et à l'époque, c'était les prophètes. Ésaïe, Ézéchiel, et en particulier Jérémie. Ils ont réfléchi. Mais est-ce que Dieu, qui nous a fait toutes ces promesses, ou qu'est-ce qu'il en est? Comment comprendre la fidélité de Dieu, comment l'articuler avec l'infidélité des hommes? Et au chapitre 31 de Jérémie, on pourrait lire un peu plus loin, mais je ne voulais pas, comme le temps est compté, je ne vais pas trop lire. Nous lisons ce texte que Jérémie dit, « Le Seigneur déclare, les jours viennent où je vais établir une nouvelle alliance avec la maison de Juda. » Une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, c'est une parole de l'Éternel. Je vais conclure avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Tout à coup, dans cette nuit complète dans laquelle le peuple se trouve et les gens se trouvent, il y a comme une lumière qui commence à s'allumer, qui était là. Quelque chose de nouveau qui doit venir de la part de Dieu. Et nous en venons ici à une deuxième définition de l'alliance. Nous avions lu tout à l'heure la question de l'accord réciproque entre deux personnes. Et en grec, c'était la brit, en hébreu, je vous l'ai dit. Et en grec, cela correspond à syntéke. Je n'ai pas fait de grec, je l'ai lu. Et ça correspond bien à l'idée d'un pacte. Un pacte nouveau. Mais l'histoire a tourné. Et je parle ici de la traduction des Septante. Très rapidement, qu'est-ce que c'était cette traduction? La traduction des Septante est une traduction en grec de la Torah et des écrits bibliques qui étaient en hébreu. C'était environ au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un souverain égyptien, Ptolémée Philadelphe, qui régnait en particulier sur la grande bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, a désiré avoir une traduction en grec de la Bible hébraïque. Il avait reçu, semble-t-il, un texte en hébreu, ne pouvant le lire, alors il a demandé qu'on lui traduise. Alors il y a toute une part de légende là-dedans. Ce qui ressort, en tout cas, c'est que 70 personnes, rabbins, qui connaissaient les Écritures et qui connaissaient l'hébreu et le grec, ont été diligentés à Alexandrie et ont traduit la Bible en grec. Pour les Juifs, à l'époque, ça a été quelque chose de magnifique, un pas en avant. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que le terme « brit », qui était le mot hébreu, qui devait être traduit normalement par « syntéké » en grec, qui correspond au même, les Septante l'ont traduit par un autre mot, le mot « diatéké ». Pourquoi? Je vous lis un petit texte encore de Ratzinger de tout à l'heure. Sur 287 passages utilisant le mot brit dans l'Ancien Testament, les traducteurs ont utilisé 263 fois, ça plus de 9 fois sur 10, le mot grec diatéké. C'est-à-dire, et c'est ça qui est important, une volonté qui s'impose à l'autre sans son accord. On n'est plus dans le domaine du partenariat, de celui qui propose, etc. On accepte. Non, une volonté qui s'impose et qui montre l'intelligence que ces gens ont eue du texte biblique et de la traduction. Cette volonté qui s'impose, d'où la notion de testament, c'est le testateur qui dispose librement de ses biens pour ceux qui seront ses héritiers. Il dispose librement de ses biens pour les héritiers. En sorte que nous avons tout à fait raison de parler de nouveau testament, c'est bien la nouvelle alliance, mais dans son sens profond, et c'est ça qui est extraordinaire. Dans son sens profond, il y a un changement fondamental. Lequel? Dans l'idée de la nouvelle alliance, c'est Dieu qui fait tout. Il n'y a pas, on ne demande pas aux hommes de remplir des obligations, sauf d'entrer dans cette alliance, bien sûr. Alors c'est la question comment, on ne va pas aborder, faire toute l'écriture là-dedans, mais c'est Dieu qui devient le garant de l'alliance. Et c'est ça qui est complètement nouveau dans la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Dans l'ancienne, le peuple devait correspondre à un certain type, à un certain schéma pour pouvoir demeurer dans cet équilibre. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui porte la totalité. C'est Dieu qui fait, on peut dire, qui porte tous les frais. Et on a là un renversement total des valeurs. C'est-à-dire, de la part de l'être humain, il n'est plus demandé « tu feras ceci et cela », tu entres librement par la foi dans cette relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous sentez l'extraordinaire de cela. Et le Nouveau Testament, écrit en grec, va reprendre ce terme de « diatheke ». Lorsqu'il est question de nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, il est question en fait de Nouveau Testament, une valeur nouvelle qui s'impose dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qui fait la grandeur extraordinaire du Nouveau Testament, de cette alliance nouvelle en Jésus, parce que Dieu est le garant pour nous de tout. Alors, cette nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, je vais très rapidement mentionner deux, trois choses, parce que le temps tourne et ce serait très long. Tout d'abord, eh bien, de façon étonnante, on trouve peu de mentions « nouvelle alliance » dans le Nouveau Testament. On en trouve dans le livre de Luc, bien sûr, Luc 22, l'institution de la scène que Paul cite en Corinthiens 11. Paul encore dans 2 Corinthiens 3, 6, ministre d'une nouvelle alliance, et Hébreux 8 et 9. Et puis c'est tout. Alors, pourquoi au fond? Mais écoutez, tout le Nouveau Testament, c'est la nouvelle charte de la nouvelle alliance. Elle n'est pas limitée à un petit bout de texte, etc. Il y a des textes peut-être plus spécifiques, comme le sermon sur la montagne, mais l'ensemble du Nouveau Testament, c'est l'ensemble de cette nouvelle alliance avec Dieu. Au fond, il n'y a pas besoin de le répéter à chaque page. Elle est là. Le Nouveau Testament, lorsque nous lisons les termes de la nouvelle alliance en Dieu. Alors, quelles sont les grandes différences entre l'alliance du Sinaï et la nouvelle alliance? Eh bien, tout d'abord, c'est Dieu qui s'occupe de tout, comme j'ai dit. Dieu prend les choses en main. Dans la chambre haute, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. » Et ce moment-là précis marque le démarrage de la nouvelle alliance. Ce jour-là, si on connaissait l'heure et la date exacte, elle est le démarrage de la nouvelle alliance dans laquelle nous pouvons entrer et dans laquelle tout homme, pas seulement Israël, dans laquelle tout homme peut entrer. L'alliance ensuite ne se fait pas avec un peuple déterminé parmi tous les autres, un peuple quelque chose de collectif, mais c'est individuel, c'est-à-dire toute personne qui met sa foi en l'œuvre de Jésus-Christ entre dans cette alliance. Alors venons à la conclusion. Nous sommes libérés pour recevoir la présence de Dieu. Cette alliance a quelque chose d'incompréhensible. Parce que c'est Dieu qui, dès le départ, recherche et recherche et recherche toujours à nouveau l'homme et la communion avec l'être humain. Dieu est venu chercher et rechercher l'homme. On l'a chanté tout à l'heure, du reste. Et qu'est-ce qui le motive? C'est l'amour de Dieu. La recette, l'amour de Dieu qui en est le motif. Deutéronome 7, 8, « Je vous ai aimé, c'est pour cela que je vous ai appelé. » Jean 3, 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a en vue, un plan en vue pour l'homme, pour l'être humain, quelque chose qui dépasse notre entendement. Et lorsque nous parlons de vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie qui se poursuit indéfiniment, parce que ça pourrait être un peu casse-pied, s'il n'y a rien qui change. C'est une qualité de vie. qui est totalement différente, quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer. C'est une vie qui nous permet de vivre dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu a prévu pour nous, pour vous. Et nous sommes livrés pour rayonner la présence de Dieu. Oui, ces liens du sang nous lient, frères et sœurs, de cette façon, d'une façon irrémédiable, nous lient avec Dieu, mais nous lient, nous, ensemble, frères et sœurs, avec ceux du passé, avec ceux que nous ne connaissons pas sur la terre, mais qui sont là, puis ceux que nous connaissons bien, ceux qui font partie de notre communauté, et avec eux nous sommes liés. Mais ce privilège, il est aussi pour notre prochain, celui qui ne connaît pas, qu'on est appelé à inviter. Alors, mes amis, soyons dans la vie ce que nous sommes en Christ. Amen.